face à nous, c'est Daniel Adam, et il est l'auteur d'un livre parmi d'autres, mais son dernier livre, c'est « Eau perdue », qui est publié chez Only Edition. Ben, Only, c'est un éditeur dont on a déjà parlé, souvenez-vous, Marc. C'est un éditeur qui édite vraiment en ligne et via des books qu'on peut lire sur l'iPad et des choses comme ça, sur l'iPad, sur l'ordinateur. Donc, c'est vraiment quelque chose de très particulier. Depuis un certain temps, il s'est mis aussi à imprimer ses livres. Donc, la première fois qu'on l'avait présenté, je pense que ce n'était pas encore le cas. Donc, vous pouvez à la fois lire ça sur tablette et à la fois lire ça en vrai, en livre.
Il a fait un peu le chemin inverse, finalement, de la plupart des éditeurs qui sont venus après l'imprimer. Bon, ben, ils sont passés à l'e-book.
Oui, tout à fait. Ben, là, c'est effectivement
le
chemin inverse.
Le papier en cours de l'avenir, on peut dire.
Oui, oui. En tous les cas, je pense qu'il a décelé le fait que certaines personnes aiment bien lire sur papier. Mais justement, en rapport avec On lit, Daniel Adam, donc bonjour. Hein. Bonjour. En rapport avec On lit, est-ce que ça a modifié votre écriture, la façon dont vous avez abordé votre livre, le fait de savoir qu'il allait être lu sur iPad?
Ça n'a pas abordé parce que je ne savais pas qu'il allait être lu sur iPad, puisque j'écris et puis à un moment donné, j'envoie à des éditeurs. Mm-hmm. Et puis, il y a des éditeurs qui répondent.
Et d'autres
oui,
pas.
Et d'autres, ils répondent tous, et très gentiment. Et donc, c'est mon troisième éditeur, au moins, ou quatrième. Chaque fois, j'envoie à différents éditeurs. Voilà, je n'ai pas de fixe, on va dire, de fidélité mm-hmm. dans le domaine.
Vous ne les usez pas quand même. Rassurez-nous.
Je l'ai quoi ?
Vous ne les usez pas.
Vos éditeurs. Peut-être que... Mais quelquefois, je garde les mêmes. Donc, en théâtre, par exemple, je garde les mêmes éditeurs.
Ah
donc,
oui, c'est vous écrivez des pièces de théâtre.
Oui, c'est ça. Donc, oui. Peut-être bien que certains sont usés. Mais ici, on va voir avec On lit. Maintenant, on va voir. C'est une jeune maison d'édition. Hein, c'est des jeunes qui n'en veulent. Hein, donc, on va voir.
C'est les courriers qui vont tenir.
Oui, c'est ça, j'espère pour eux.
En tous les cas, je trouve qu'ils ont un très beau catalogue. Et ils publient des choses très intéressantes, dont votre livre, il faut le bien dire. C'est pour ça que vous êtes là pour cette première émission interview littéraire. Et donc, pour rappel, vous êtes auteur de 7 pièces de théâtre, si j'ai bien lu. Hein, et de plusieurs nouvelles et récits. C'est votre troisième roman. Vous avez eu le Grand Prix de la communauté française Fureur de lire en 2001 pour Envol. Et vous avez été finaliste du prix Victor Rossel 2010. Donc, on dit toujours que c'est notre Goncourt, voilà. Il faut bien qu'on trouve une comparaison quelque part. Et c'était pour Une histoire tue en 2010.
C'est ça, oui. Voilà, qui a reçu le prix Plisnier, par ailleurs. On connaît moins ici, mais qui est le prix d'un prix décerné Ennuyé, qui a une certaine renommée, on va dire, voilà. Plisnier étant lui-même un Goncourt en 1937.
C'est ça, donc ben voilà, c'est dans le beau sillage alors de Plisnier. Est-ce qu'on va raconter l'histoire en deux mots?
Comme ça
que nos lecteurs sachent de quoi
pitch,
il s'agit. Oui,
dit,
le pitch. Voilà. Alors en fait, on est en 1979 et Vincent, donc le héros de votre histoire, aménage avec sa femme, Romy, dans une maison isolée, la maison du pendu. Donc ça met déjà un petit peu l'atmosphère et le mystère qui règne dans ce livre. Ils sont jeunes tous les deux et ils traînent aussi tous les deux un lourd passé familial. Romy tombe enceinte et la vie de Vincent s'en trouve tout à fait bouleversée. Et on sent qu'il y a une obsession vraiment qui l'habite, le souvenir de sa sœur qui est morte en couche après avoir perdu les eaux au milieu du salon, d'où le titre évidemment « Eau perdue ». Et cette eau perdue nous raconte finalement l'histoire d'un jeune homme qui est aux portes de la paternité et c'est un pas parfois difficile à franchir.
On va vous proposer d'écouter un petit disque. Et puis vous aurez, mais sans problème, l'autorisation de répondre après, parce qu'on ne recule devant rien ici à BXFM, mais on parlera un peu après de l'idée, d'où vient cette idée.
Très bien, restez avec nous sur BXFM, 1h-20, bon appétit sur passés à table. Willow, Danger, c'est 100% belge, et c'est sur votre radio bruxelloise.
Hey, what's with the long face, man? You need to unwind, man. Well, let's make a deal, come in. It's raining hard, it's windy, she's really warm and friendly. Waiting upstairs, relax, let go, forget about your life. No matter what is wrong or right, she couldn't care less. Outside, the neon lights are dancing, her makeup is entrancing. Money well spent, it's sensual, it's physical, and it's danger. Satisfied your needs, man. Leave a tip downstairs, man. Your time's up, goodbye. Go home, sleep off your guilty pleasure. Your dangerous adventure
Wake up, don't regret the bus and caffeine consumption. A little rush of tension. You're back at your desk. Bright lies, bleary-eyed rude mornings. Another day so boring. Double-click, press send.
Mon épargne, j'en suis fier. Elle en est à sa troisième usine.
Réinvestir l'épargne dans les grandes entreprises d'ici, chez CBC Banque et Assurance, on y croit.
Hello, c'est Patrick Balza. Je vous rappelle que tous les samedis soirs, entre 19h et 22h, c'est le BX Club avec la crème des DJ belges et même internationaux. Évidemment, votre serviteur au platine, mais également Maya Cox, Chrisinger, Lorenzinho, Manu Attack, Blondie, Dermont, tous les samedis soirs, 19h, 22h, avec un son deep house.
Vous êtes dans le quartier de l'Observatoire. Vous écoutez BXFM sur 104.3. Melting Pot sur BXFM avec Marc Herman.
Who wants me now? Come on, show me your colors. Show me your strength. Show me that you're willing. Show me you're able. 'Cause I will arrive in pieces, and I'll be in all the papers, and I'll be on all the walls. Then watch me fall. So will you walk with me? Please will you talk to me? Because I'm your friend, and you will see that being your friend started to be. Cut me down the middle. Share me like a cake. Show me that you want me. Show me you're able. 'Cause I will arrive in pieces, and I'll be in all the papers, and I'll be on all the walls. Then watch me. So will you walk with me? Please will you talk to me? Because I'm your friend, and you will see that being your friend started to be.
Andy Barrow, Watch Me Fall Again sur BXFM. Il est un peu moins d'une heure moins quart. Bon appétit sous passés à table. Et on revient avec Marc Herman, Evelyne Guzzi, notre invité aujourd'hui.
Et notre invité qui est Daniel Adam pour Eau perdue, publié chez On Lit Éditions. C'est un bouquin, Daniel, bonjour pour ceux qui nous prennent en route. C'est un bouquin qui vient de sortir. Il est sorti.
Il est sorti il y a deux mois. Ah, c'est ça, en début novembre. On est quand en janvier. Février, voilà. Déjà, oui, février. Voilà. Oui, c'est ça. Mais le temps que le bouquin sorte, qu'on en parle, c'est.
Et
il faut le lire. Oui, oui, c'est ça.
On
oui.
l'a dit tout à l'heure. Hein, donc, oui, oui. Pas rapide. Non. Non, elle lit très, très vite.
C'est un bouquin
mais
court.
C'est bien, donc il est tout à fait d'actualité. C'est ce que
oui, j'espère.
Et alors, justement, un bouquin sur la paternité, ou plutôt l'avant-paternité, mmh. un sujet qui est extrêmement peu abordé en littérature, personnellement, mais bon, je ne l'ai évidemment pas tout lu. Je ne me souviens pas d'avoir lu de livres ayant cela pour thème. Comment ça vous est venu, ce sujet original? Comment est-ce que vous y avez pensé?
Parce qu'en écrivant, c'est le personnage de... Il y a deux personnages qui m'ont intrigué dès le départ. C'est d'une part le personnage de Vincent, j'aimais bien l'idée d'un jeune père, et le personnage... qui fait partie intrinsèque de l'histoire, qui est cette maison. Mais déjà, dans mon précédent roman, Histoire tue, il y avait déjà le principe de cette maison qui avait été partagée. Mais ici, cette maison perdue au milieu de nulle part, c'est-à-dire le long d'une voie ferrée entre Namur et Bruxelles, c'est effectivement à peu près au milieu de nulle part, et Namur et Bruxelles, d'ailleurs, à l'échelle du monde. Et d'avoir cette maison perdue avec ce jeune couple à la fin des années 70 qui débarque là, ça je vois pas très bien, on sait pas d'où ils viennent, mais peu importe, ils sont là et ils se retrouvent là avec un troisième personnage qui est cet enfant. Et comment ce jeune père, autant pour la mère, on va dire, quand je dis c'est simple, comprenons-nous. C'est évident, les signes sont là, les signes physiques sont là pour dire, voilà, là, elle est enceinte. Lui n'est pas enceinte. Et ce garçon, Vincent, se retrouve avec les signes extérieurs de la future paternité, mais en son fort intérieur, c'est vraiment le maelstrom complet, parce que qu'est-ce qui va se passer? Comment je vais appréhender ça? C'est quoi être père? Alors, j'ai un peu corsé, évidemment, lui qui a, ce Vincent, peu connu son père, comment peut-on devenir père lorsqu'on n'en a pas eu soi-même? Donc là, il y avait ce qui arrive à une quantité de gens. Donc ça m'intéressait. Et puis, j'ai encore un peu corsé la chose, puisqu'il a vécu une relation particulière avec sa sœur, qui a accouché, qui était fille-mère, qui est décédée, et dont, on, à un moment donné, lors de l'accouchement, on l'a pris, lui, pour le père. Et donc, comment on l'a pris pour le père? Ben non, il n'était pas le père. Mais ici, il est le père. Donc, c'est comment tous ces éléments s'entrechoquent dans la tête de ce garçon qui est jeune, à une époque où, on en parle à l'instant, il n'y avait pas de GSM. Il y avait des téléphones avec un fil au bout, et donc il y a un rapport à l'information et l'immédiateté différente quand même.
On sent une sorte de peur de la paternité qui est évidemment caractéristique au héros de ce roman, mais est-ce qu'on peut la généraliser un peu?
Il me semble que pour le jeune père, maintenant les pères sont un peu plus vieux, mais là je l'ai mis volontairement une vingtaine d'années, pour les jeunes pères, c'est pas évident quand même, c'est un moment, rien n'est fait pour eux. Et même dans les cours prénataux, on apprend les accouchements, enfin l'accouchement, etc. On travaille, les médecins, et il y a toute une série de gens qui travaillent avec eux, avec les groupes de jeunes mères, on travaille avec eux, on apprend comment ça va se passer quand vous allez être père. On ne dit rien sur l'accouchement, par exemple. On ne dit pas à un jeune père, écoutez, si à l'accouchement, si votre femme accouche, je vais vous dire au moins comment, ce que vous, on ne dit pas ça. On parle d'avant, comment vous devez materner, écouter, parler à l'enfant, on parle d'après, mais sur là, rien du tout. Donc, c'est comme s'il y avait des éléments qui sont clampsés, si j'ose dire, c'est le cas de le dire, où on n'en parle pas. Et pour le père, singulièrement, le père n'existe que comme soutien.
Et il est convoqué à cet accouchement dont on ne lui parle pas.
Ah, normalement, il est convoqué à l'accouchement et tout là, l'angoisse, en tout cas de Vincent, du personnage, c'est va-t-il aller à cet accouchement? Évidemment qu'il a envie d'y aller, psychologiquement il a envie, mais il a une trouille fondamentale d'aller à l'accouchement, parce que vivre un accouchement, c'est quand même une aventure incroyable.
Ok, on va se réécouter un disque, voilà.
Un peu de musique,
qu'est-ce qu'on écoute, Charles?
Ah ben, Angie Stone, tiens, ça vous fera plaisir. No More Rain, et on revient après.
No more rain in this cloud. There's no hiding place when someone has hurt you. It's written on your face. And it reads, broken spirit, lost and confused, empty scared. Used and abused, a fool. Oh, ain't it funny that the way you feel shows on your face,
all over your face, yeah.
And the smile you used to wear seems a little bit out of
tracks of tears.
Oh, hold on, in time it gets a little better. Oh. Space that you requested, hope you don't live to regret.
ready. So you say you're in your prime. Baby, don't waste your time. Remember my love. It's only a day.
Et on revient dans le Melting Pot sur BXFM jusqu'à 13h. Marc, on n'est jamais tout seul dans le Melting Pot. Hein.
Bah heureusement, j'ai horreur de la solitude.
Hein, ah oui, ça vous le savez. Hein.
Et alors en plus, je suis très gâté, puisque moi je n'ai pratiquement que des chroniqueuses, vous avez remarqué.
Ah oui, c'est vrai.
C'est un hasard. C'est un hasard pur. Alors nous sommes en compagnon, compagnie de mes compagnons, c'est la plus intéressante.
Hein,
vous le prenez, de Daniel Adam, pour Au Perdu, chez On Lit Édition. Voilà, qui est, on vient de le dire, un roman, mais qui est hyper intéressant parce qu'un sujet, la paternité, qui est rarement traité. Et vous, vous en parlez, mais vraiment avec beaucoup de... C'est votre propre expérience, au fond.
Non,
vous racontez quelque part où il y a un peu de, peu de soi.
Toujours, évidemment, voilà. C'est le mentir vrai d'Aragon, hein, bien sûr. Mais enfin, j'ai été chercher des éléments, mais c'est pas mon... j'ai pas vécu ça, non.
D'accord. Alors, on parlait de la naissance et du dédoublement.
Oui, ce que je voulais parler, c'est qu'en fait, on parle de la naissance d'un enfant là, mais on a l'impression tout au long du livre qu'il s'agit d'une double naissance et que c'est, le père va naître en même temps que l'enfant. Donc, j'avais envie de vous entendre sur ce sujet de la double naissance et du rôle de la paternité dans la naissance de soi pour l'homme.
Oui, c'est pour ça que il me semble, mais que je n'ai pas voulu ça non plus au départ, soyons honnêtes, on ne prévoit pas tout, mais en arrivant, quand je l'ai relu, retravaillé, je me suis dit, mais en fait, c'est un roman initiatique.
Absolument.
C'est un roman de comment le père advient. Donc c'est comme c'est la très belle phrase de La Fontaine, j'étais là, telle chose advint. Et donc ce personnage se retrouve là, il se passe, il devient père. En tout cas, biologiquement, il va devenir père. Et c'est tout son cheminement pour arriver enfin. Et ça, c'est la fin du roman, à comprendre que qu'il accouche de lui-même pour finir. Donc c'est comment il peut parvenir à se découvrir au travers du miroir que représente. Non seulement, ce n'est pas l'enfant qui est le miroir, c'est l'humain à venir. Et donc, on est, qui n'est pas un propos très humaniste.
C'est lui-même, d'ailleurs.
C'est lui-même. Donc, c'est l'humain c'est cette naissance d'un humain sur la Terre qui lui renvoie sa propre image et sa propre destinée. Il doit, lui aussi, grandir. Son bébé va grandir, mais lui-même doit grandir. Et pour grandir, il va devoir accepter d'être ce qu'il est et d'aller, on en parle à un moment donné, il se dit, maintenant, je dois vraiment aller travailler. Il faut que je fasse quelque chose.
Oui,
il faut que j'arrête de glander.
Il est extrêmement indolent alors que sa femme travaille.
Oui,
c'est un peu énervant quand on lit le livre. On se demande quand est-ce qu'il va bouger. Quand est-ce qu'enfin, il va prendre les choses en main.
Oui, c'est ça.
Et alors, ce qui est très, très frappant, et là, c'est vraiment une question d'écriture, j'étais frappée par ça, c'est que parfois, dans le livre, il parle de lui-même en « je », et parfois, il parle de lui en « il ». Et donc, on sent vraiment tout ce conflit intérieur, finalement, par ce système de l'écriture qui nous montre très bien comment il est par rapport à lui-même et comment il est en contact avec sa véritable personnalité. Donc ça, je trouve que c'est quelque chose de très frappant et on se demande pendant tout le bouquin, mais quand est-ce qu'il va rassembler ce « je » et ce « il » ? Quand est-ce que ça va faire une seule personne, finalement ? C'est une façon intéressante de l'approcher, je trouve.
Oui, mais parce que là aussi, on peut faire le narrateur omniscient qui est « je », il y avait ça, mais alors on n'a que le point de vue du narrateur. Le personnage. Et je trouvais que le personnage y allait un peu fort à un moment donné. Et ça m'intéressait d'avoir que l'auteur donne aussi son point de vue.
Oui.
Et donc, quand c'est le « il », troisième personne, évidemment, ce n'est plus lui qui parle. C'est un point de vue de l'auteur qui essaye de corriger un peu ce que le narrateur est en train de raconter.
Moi, donc, je l'ai senti comme une schizophrénie. Donc, le lecteur apporte toujours autre chose à l'auteur
quand il partage.
C'est
l'avantage de lire, bien sûr. Voilà. Oh, oui.
Donc, moi, j'ai senti vraiment comme une réaction un peu schizophrène, qu'une partie de lui, finalement, parlait en jeu, une autre partie de lui surplombait ça et parlait en il. Donc, voilà.
Heureusement qu'il parlait
chaque
pas
lecteur
en nous.
Réinvente les livres.
On va parler de théâtre dans quelques instants, puisque c'est quand même une grosse partie de votre vie et de votre travail d'écriture aussi. On s'écoute un disque. Je vous offre un Zakouski musical.
On a encore 5 minutes. Alors, on y va en musique et on revient juste après avec Stretch sur BX.
I've been thinking about what you have done to me. What you have done to me, the damage is much deeper than you'll ever see. Hit me like a hammer to my head. I wonder were you pushed or were you led? Why did you do it? Why did you do that thing to me? Why did you do it? Why did you do that thing to me? The only one who knows the truth, man, that's him, me and you. My friends, they listen to the things I say. They listen and they hear more every day.
On revient dans le Melting Pot sur BXFM et j'espère que tout se passe bien de votre côté. Encore bon appétit et restez sur le BXFM.be 104.3 à Bruxelles. Marc, on va clôturer.
On va clôturer en compagnie d'Evelyne Guzzi et de son invité Daniel Adam qui nous a parlé de son livre. Bon, on répétera tout à l'heure le titre. Mais surtout, dans votre petite bio, on a vu que vous étiez un homme de théâtre.
Oui.
Alors,
oui.
Et Evelyne avait une bonne question, à mon avis.
Oui, Evelyne peut même l'énoncer toute seule comme une grande fille.
Oui,
quelle est l'influence du théâtre sur votre écriture, Daniel?
Elle est permanente parce que lorsque j'écris des spectacles, forcément, les fins de scène sont des fins de scène qui doivent être, on va dire, marquées. On ne peut pas terminer comme ça n'importe
alors
comment.
C'est rideau.
Oui, rideau, où il doit y avoir. Ça doit être soutenu.
Oui.
Et dans les chapitres ici, qui sont courts volontairement, j'essaye d'avoir aussi de terminer par quelque chose qui, on va dire, qui déstabilise un peu, qui ne va pas dans le fil continu. Il faut que soit, à la fin, il y ait quelque chose qui interpelle le lecteur pour l'amener. Ça, c'est le principe des feuilletons, on l'amène à la page suivante. Soit pour essayer de trouver quelque chose qui mettent un peu à mal tout ce qui vient d'être dit avant.
Oui, c'est cette sorte de flash et c'est contradictoire,
oui, de
effectivement.
Ramener,
donc c'est beaucoup.
De ramasser dans la cuillère comme ça à la fin. Mais c'est dans l'écriture, mais j'aime beaucoup ça. C'est très, très agréable à faire. Mais c'est aussi lié au sens. C'est pas un truc, c'est lié au sens narratif du chapitre, évidemment.
Non, c'est en fait. C'est en fait une histoire qui se dévoile petit à petit, il faut le savoir. C'est nappé de mystère. Et tous ces chapitres apportent chacun un élément pertinent à l'histoire. Donc, chaque fois, on va recueillir quelque chose qui va nous permettre d'élaborer mentalement qui est ce personnage et qu'est-ce qu'il vit, sans que tous les liens soient faits, c'est-à-dire que vous ne pensez pas à la place du lecteur. Moi, je déteste lorsqu'un auteur essaye de me dire la psychologie de tous ces personnages dans le détail et que je ne peux pas moi-même imaginer qui ils sont.
Merci.
Et là, c'est une écriture qui permet au lecteur d'exister. Donc ça, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé. Je vous en félicite. Et je vais rappeler pour nos auditeurs le livre. Donc c'est un livre de Daniel Adam qui est ici, qui répond à nos questions, à Marc et à moi. Il s'appelle « Au perdu ». C'est publié chez On lit édition. Vous le trouvez dans toutes les bonnes librairies. Vous pouvez le lire sur e-book. Donc ça, il faut bien le savoir. Vous pouvez l'avoir sur votre tablette. Vous pouvez aussi l'avoir sur papier. Ça aborde un sujet qui est inhabituel, c'est dense, c'est profond, c'est poétique et c'est drôle. Tous les éléments de la vie sont là. Vraiment, je vous le recommande. Et je vous invite à aller voir sur mon site www.evelyneguzzi.be si vous avez envie de réentendre ça ou de lire des chroniques sur d'autres auteurs belges. en attendant la prochaine chronique qui sera tenue par Marc.
Oui, un petit remplacement. Voilà,
voilà.
C'est comme ça.
Marc va me remplacer
parce que
dans 15 jours.
Elle
donc
prend
soyez
des vacances,
à l'écoute de Marc.
Notre amie, elle est en vacances tout le temps, hein, Charles.
Bah, c'est vrai, elle ne bouge pas mal.
Faut en profiter. Hein, faut en
par
profiter.
Hasard, on la découvre dans le studio. On dit, ah tiens, elle n'est pas en vacances.
Très bien.
Ils sont merci jaloux.
Allez, merci Evelyne. Bonnes vacances. Marc,
merci.
Bonnes vacances aussi.
Daniel Adam, merci beaucoup. Merci en tout cas, à une prochaine, puisque vous êtes un auteur quand même relativement prolifique. Donc je suppose qu'il y aura une prochaine.
J'espère. Très certainement.
Vous êtes absolument bienvenue en tout cas.
Merci.
Voilà, au revoir.
Merci.
Au revoir.
Très bon
au revoir.
Après-midi. Merci Evelyne. À la semaine prochaine. À bientôt. Bonnes vacances. D'ici là, il est 13h sur BX.